Chapitre 2. Émile a le cœur qui bat étrangement fort, la gorge nouée. Il ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Il a du mal à conduire ce camping-car. Il n'en a jamais conduit avant. Au feu rouge, il se regarde dans le rétroviseur furtivement. Il a la tête des mauvais jours. Des cernes sous les yeux, la barbe hirsute. Il monte le volume de la musique encore plus fort. Il ne veut pas repenser à ce qu'il vient de faire, à ce qu'il vient de laisser, ou plutôt à ceux qu'il vient d'abandonner. Il l'a fait vite, très vite, avant de changer d'avis. La veille encore, il hésitait, et ce matin, il part. Le feu passe au vert. Il suit le panneau qui indique l'autoroute, passe le rond-point. La sortie 3 est en vue. C'est là qu'il a pris l'autoroute pendant presque 26 ans, chaque été avec ses parents et sa sœur, pour partir dans le sud. Il chasse les souvenirs, il n'en veut plus. Plus pour le moment. Il doit se concentrer sur ce qui va arriver. Il baisse le volume de la musique en entrant sur le petit parking d'entrée de l'autoroute. Il n'y a pas foule en ce mardi, à l'heure du déjeuner. Il consulte l'heure sur le tableau de bord. Il est en avance de 10 minutes. Elle ne doit pas être arrivée. Le parking est désert. Qui va l'emmener? Un ami? Un parent? Que leur racontera-t-elle? Il stationne le camping-car et coupe le moteur au moment même où il aperçoit un mouvement au bout du parking. Il y a un arbre là-bas tout au bout. Un arbre unique qui a poussé dans un minuscule coin d'herbe à l'entrée de l'autoroute. La fille est là, assise au pied de l'arbre. Pas de doute, c'est bien elle. Elle est assise en tailleur avec un chapeau noir à large bord sur la tête. Elle a posé un gros sac à dos rouge contre l'arbre à côté d'elle. Elle l'observe en hésitant, la main en visière pour se protéger du soleil. Émile coupe le contact, ouvre la portière et la fille se lève au loin sur le parking. Elle porte une très longue robe noire qui lui descend jusqu'aux chevilles et masque ses formes. Il n'en est pas très sûr car elle est encore loin, mais elle lui semble mince, plutôt frêle, perdue au milieu de sa grande robe. Il avance, elle aussi. Il se sent un peu bête et maladroit. Encore pire que lors d'un premier rendez-vous. La voilà devant lui. Elle est frêle, toute menue. Elle a des épaules fines. Il se demande comment elle peut porter un sac à dos si gros. Sous son grand chapeau noir se cache un visage fin, des petits yeux marrons sans éclat, des cheveux châtains clairs en mêlée, ni vraiment lisses, ni vraiment ondulés. Elle doit être belle quand elle le veut, quand elle peigne ses cheveux, quand elle dessine un trait noir sur ses yeux, quand elle ne se noie pas dans des vêtements trop grands et quand elle ne se cache pas dans l'ombre de son chapeau. Mais là, elle a simplement l'air petite. Petite et un peu terne, un peu négligée. « Salut », dit-il la gorge un peu nouée. Elle lève la tête pour lui répondre. Elle doit à peine faire 1m57. Elle a raison. « Salut ». Elle n'ajoute rien de particulier. Il se trouve un peu pris au dépourvu. Il se l'est imaginé autrement. Le ton de son premier message laissait deviner une fille à l'aise, une fille légère, un peu désinvolte, un peu dingue. Pas cette espèce de petit bout de femme mangée par son chapeau et tellement timide. Il se sent obligé de poursuivre, car il sait qu'elle ne le fera pas. « Eh ben, c'est moi. Je suis Émile. » Elle hoche la tête. Esquisse un semblant de fragment de sourire. « Moi, Johan.
Tu es là depuis longtemps ?»«
2 heures. »«
Oh, je savais pas, je suis désolé. »«
C'est rien. On m'a déposé plus tôt que prévu. » Elle a une petite voix qui porte très peu. Décidément, elle n'a rien à voir avec la fille du premier message.
« Tu t'es fait amener en voiture ?»
J'ai fait du stop.
Hein?
Il ne trouve rien d'autre à ajouter. Elle est là, plantée devant lui avec son énorme sac à dos rouge. Alors il ajoute.
T'es prête? On y va?
Elle hoche la tête. Ils se dirigent tous les deux vers le camping-car. Elle a une démarche lourde et légère à la fois. Lourde car elle semble porter un lourd fardeau. Légère parce qu'elle semble flotter au-dessus du sol. Il lui ouvre la portière. Elle jette à peine un coup d'œil à l'intérieur du véhicule, alors il lui dit quand même « Voilà le camping-car, voilà où on vivra. » Ça lui paraît étrange de prononcer ces mots. « Voilà où on vivra. » Il n'a vécu qu'avec Laura. Et aujourd'hui, il va partager ce minuscule véhicule avec une parfaite inconnue. Elle balaie l'arrière du véhicule de ses yeux.
« Hein, parfait. »
Il ne décèle aucune émotion particulière dans sa voix, aucun éclat dans ses yeux. Elle semble être totalement indifférente à tout ce qui lui arrive. Émile prend place sur le siège conducteur. Elle boucle sa ceinture. Elle n'a toujours pas enlevé son chapeau. Il a l'impression qu'elle ne le fera pas. Il se trémousse, mal à l'aise sur son siège, laisse échapper un rire nerveux.
Pour l'itinéraire, on...
Le rire nerveux se termine en tout sautement.
On s'est pas mis d'accord. On sait pas où on va.
La situation lui paraît tout à coup parfaitement absurde. Se retrouver là, à l'avant de ce camping-car, avec cette fille totalement absente à elle-même, sans même savoir où ils partent. La voix fluette s'élève.
Ça n'a pas d'importance pour moi.
Qui elle est et qu'est-ce qu'elle fout là? Bon sang, qu'est-ce qu'elle peut bien fuir pour se jeter dans le véhicule du premier type venu sans se soucier de son propre sort? Ils ont décidé qu'ils prendraient la direction des Pyrénées. Ils ne disent pas un mot sur le trajet. Émile essaie de lui jeter des coups d'œil discrets, mais il est sûr d'être tout sauf discret. Pourtant, il ne peut pas s'en empêcher. La phrase est tombée comme ça, sans appel, sans détour, sans faux-semblant. Ça n'a pas d'importance pour moi. Et il sait qu'elle dit parfaitement vrai. Elle se moque d'où ils vont, de qui il est, de la raison pour laquelle il part, de ce qu'il peut bien lui arriver. Tout ça n'a aucune importance pour elle. Elle ne cherche qu'à fuir. Qui ? Quoi ? Ça le rend dingue. Il a compris maintenant. Il s'est fourvoyé. Le ton de son message, totalement décalé, il a pris cela pour du défi, de l'espièglerie. Il a cru avoir affaire à une personnalité hors norme, un peu loufoque, un peu extravertie. Il s'est trompé. Le ton était bien décalé, oui, mais pour une raison simple. Cette fille est à côté de la plaque, à côté de ses pompes, à côté de sa vie. Elle est perdue. Elle est ailleurs. Elle doit être à peine consciente d'être vivante. Il roule. La musique est faible, presque en sourdine. La fille a les yeux fixés sur la route. Elle est parfaitement immobile.
Tu me dis si tu veux ouvrir la fenêtre? Oui.
Si tu veux t'arrêter?
Oui. D'accord.
Les kilomètres défilent. Il commence à s'habituer au camping-car, à sa conduite, au silence de la fille aussi. Il se dit que ça tombe bien, qu'il n'a pas vraiment le moral ni l'envie de parler. Il a la gorge nouée. Les larmes au bord des yeux, mais il se contient. Hier, il était chez ses parents pour leur ramener les dates de sa première session d'essai clinique.
« Maman, pour que tu le notes dans ton agenda, si jamais tu veux m'accompagner ?»
Il a regardé question pour 1 000 euros avec son père quelques instants, pendant que sa mère arrosait ses orchidées à côté d'eux. Puis il est passé chez Marjorie pour l'aider à remplacer l'ampoule du lustre dans le salon.
« Mais Émile, il fallait pas te déranger pour ça !» Ça fait 3 mois que je fais 100.
Elle a semblé surprise. Son mari, Bastien, travaille dur. Ça n'a pas été facile avec l'arrivée des jumeaux. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Bastien a peu de temps pour les petits travaux de la maison et quand l'ampoule du lustre a rendu l'âme 3 mois plus tôt, Marjorie a demandé à Émile s'il pouvait passer à l'occasion pour la lui changer. Il ne l'a jamais fait, bien sûr.
Non qu'il n'ait pas le temps.
Non. Il a repoussé cette tâche qui n'était pas si importante 3 mois durant. Mais hier, il y est allé. Il est passé acheter une ampoule en grande surface, puis il s'est rendu chez Marjorie. Bastien était au travail. Les jumeaux prenaient leur goûter après l'école. Marjorie nettoyait le plan de travail.
« Je viens pour l'ampoule », a-t-il annoncé.
Marjorie lui a installé un escabeau dans le salon. les jumeaux se sont postés en bas pour observer, intrigués. Après ça, Marjorie lui a servi le café, elle a insisté pour qu'il reste manger avec eux le soir, mais il a répondu qu'il ne pouvait pas, qu'il devait passer chez Renaud. Il a quand même attendu que Bastien rentre du travail pour prendre un deuxième café avec lui, parler de tout et de rien. Puis il est parti. Il a dit « à plus ». Il a filé vite, très vite chez Renaud. Ce n'était pas le moment de pleurer ou de se laisser aller. Il avait encore un adieu secret à faire, un visage à imprimer avant de partir demain. Alors il est allé sonner chez Renaud une boîte d'œufs à la main.
« Ma mère m'en a encore ramené. Deux boîtes en une semaine, ils vont pourrir. Je vous les amène pour que vous les fassiez rapidement. »
Renaud a voulu dire quelque chose. Il est devenu étrangement pâle. Mais Laetitia était à côté. Elle a dit
« Oh, c'est sympa! Tu prends un apéritif avant de repartir ?»
Il a fait exprès de venir à cette heure-là, car il savait que Laetitia serait là. Il savait que Renaud ne pourrait pas l'interroger, le prendre à part, s'effondrer sur son épaule. Ça n'était pas très fair-play de le prendre comme ça, à la traître, mais il ne voulait pas d'adieu. Il n'a jamais aimé ça. Laetitia lui a servi un martini qu'ils ont bu tous les trois dans le salon. Émile a pris Tivan dans ses bras pour le faire crier un peu.
Il m'aime toujours aussi peu, ton morveux.
Renaud était pâle et silencieux. Il ne parlait pas. Il se doutait que quelque chose clochait, que cette visite était peut-être la dernière. Au moment de filer, sur le pas de la porte, Renaud a essayé de le retenir.
Émile, attends.
Laetitia était repartie au salon après l'avoir salué.
C'est quoi cette histoire de... Me prends pas pour un con.
Renaud l'a regardé avec une douleur profonde au fond des yeux. Émile a répondu « Je dois vraiment y aller, vieux. » Il lui a donné une accolade et il s'est mis à dévaler les escaliers à toute vitesse. Renaud a hurlé de toutes ses forces dans la cage d'escalier.
« Enfoiré !»
Car il avait bien compris. Il savait qu'Émile fuyait comme un voleur sans lui dire adieu. Émile a entendu Laetitia sortir sur le perron demander à Renaud
« Qu'est-ce qui te prend ?»
La porte de leur appartement s'est refermée. Émile n'a plus rien entendu. Il est passé prendre son sac à dos chez lui, il a fermé à clé. Il a dormi dans le camping-car cette nuit-là, sur le parking en centre-ville, pour être sûr de ne pas être dérangé. Pour être sûr que Renaud ne se pointerait pas et ne défoncerait pas la porte. Il a fait une nuit blanche. Il n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Il essaie de chasser tout ça. C'est encore trop douloureux. Il n'a jamais fait ce genre de choses. Il se demande si c'est aussi douloureux pour Joanne, si c'est pour cela qu'elle ne décroche pas un mot et qu'elle a l'air si perdue. Peut-être. Ça n'est pas si mal, finalement, qu'ils gardent le silence tous les deux, qu'ils respectent l'un et l'autre ce moment difficile. Il s'arrête sur une aire d'autoroute pour se dégourdir les jambes. Joanne reste plantée à côté du camping-car. Émile fait quelques pas en direction de la boutique. Il a compris beaucoup de choses en quelques heures, des choses qu'il ignorait. Il ne savait pas que ça pouvait être aussi doux et aussi précieux de changer une ampoule, de voir sa sœur sourire, de regarder question pour 1 000 euros à côté de son père, de sentir sa mère s'activer autour de ses orchidées, d'entendre pleurer le morveux pendant que Laetitia faisait couler le martini dans son verre pendant que Renaud regardait par la fenêtre. Il ne savait pas que ça valait cher. Il a cru qu'il n'avait plus rien quand Laura est partie, qu'il ne lui restait que du vide et des choses insignifiantes. Il n'a pas vu ce qui lui restait, des petites choses de rien du tout, qui font qu'on se sent aimé quand même, qu'on reste en vie. Il ravale ses larmes tandis qu'il passe les portes vitrées de la boutique de l'aire d'autoroute. Il n'a pas faim, mais l'après-midi est déjà bien avancé et il faut qu'il achète quelque chose en prévision de ce soir. La faim finira bien par arriver. Il choisit un sandwich dans la vitrine réfrigérée, puis il déambule dans les rayons. Il ne sait pas si Joanne a quelque chose à manger. Il décide de prendre un paquet de chips au cas où et 2 compotes. Il attrape une boîte de conserve de petits pois et une autre de lentilles, au cas où. Cela constituera quelques réserves. Arrivé à la caisse, il ajoute une bouteille d'eau à ses courses et tend sa carte bleue.
16,46 € s'il vous plaît.
Sur le parking, il fait une chaleur étouffante. Le soleil de juillet est brûlant. Joanne s'est assise dans un petit coin d'herbe qui borde le camping-car. Elle a étendu ses jambes devant elle, dévoilant quelques centimètres de ses tibias. Ils sont pâles. Elle n'a pas dû beaucoup prendre le soleil dernièrement. Émile l'a rejoint, son petit sachet en plastique à la main.
« Tu veux manger ? Je nous ai pris quelques provisions. »
Elle lève la tête vers lui et la secoue de gauche à droite.
« Ça va, je te remercie. Pas pour le moment. »
Elle semble avoir repris un peu de vie. Ses phrases sont plus longues. Alors il s'assoit à côté d'elle sur le coin d'herbe et demande « Ça va ?» comme s'il se connaissait bien. Elle hoche la tête.
« Ça va. »
Elle hésite, puis ajoute
« Tu sais où on passe la nuit ce soir ?»
Émile hausse les épaules.
« Non, je comptais m'arrêter au hasard quand j'aurai sommeil. Mais si tu as une envie précise... »«
Oh non, je demandais comme ça. »
Le silence retombe. Une question intrigue Émile tout à coup. Il ne peut se retenir de la poser.
« Comment t'es tombé sur mon annonce ?»
Le visage de Joanne disparaît sous son chapeau, car elle baisse soudain la tête. Elle se donne une contenance en arrachant quelques brins d'herbe.
J'avais décidé de partir. J'avais besoin d'une voiture. Je consultais les petites annonces pour en trouver une.
Émile attend la suite. Il n'y en a pas.
Et tu es tombé sur mon annonce, comme ça ?
Elle était sur la page d'accueil. Je crois que tu as dû avoir pas mal de vues, car elle apparaissait dans les plus consultées les dernières 24 heures.
Ah oui ?
Il a un sourire mi-amusé, mi-triste.
Il faut dire qu'elle était un peu surprenante, cette annonce, non ?
Joanne hausse les épaules.
Ouais, sans doute.
Visiblement, elle ne l'a pas trouvée surprenante, elle. Ou elle est trop ailleurs pour s'en rendre compte.
Je pensais que ça effraierait une femme, une annonce pareille.
Il insiste un peu pour provoquer une réaction.
Oh, non, pas moi.
Il comprend qu'il n'obtiendra pas de réponse plus précise. Il se relève avec des mouvements lents, lui demande.
Tu veux aller aux toilettes ? Te dégourdir encore un peu les jambes ?
Elle secoue la tête.
Non, ça va.
On repart alors ?
D'accord.
Il fait plus frais dehors. Le soleil décline à l'horizon. Ils ont roulé plusieurs heures encore. Et puis Émile a cru qu'il allait s'endormir sur le volant. Avec la nuit blanche, les émotions, ça faisait beaucoup à endurer pour aujourd'hui. Il a décidé de s'arrêter. Il a stationné le camping-car au bord d'une nationale, à proximité de Brive-la-Gaillarde. Il est à peine 18 heures, mais il est affamé maintenant. Ils ont sorti une table pliante et deux chaises d'un placard mural à l'intérieur et ils les ont posées au bord de la route, s'improvisant un coin terrasse.
« Tu veux manger quoi ?»
Joanne a lorgné les chips, le sandwich, les compotes. Elle a choisi une compote.
« C'est tout ?»«
Je n'ai pas très faim. »
Elle a mangé sa compote debout, sans prendre place à table avec lui. Ensuite, elle a demandé si elle pouvait prendre une douche. Si le réservoir d'eau était rempli.
Vas-y, j'ai vérifié ce matin. On a encore 50 litres. On le remplira demain. On essaiera de trouver une aire de service pour camping-car.
Elle a hoché la tête et disparu à l'intérieur. Maintenant, il est là, assis à la table pliante, au bord d'une nationale, mangeant son sandwich sous vide. Son téléphone, éteint, est posé à côté de lui. Il ne le rallumera plus jamais. Ou... pas avant très longtemps. Il n'a pas laissé de mots, à personne. Il le fera plus tard. Il écrira une lettre et il la postera à ses parents. Ils feront suivre à Renaud et à sa sœur. De temps en temps, une voiture passe. Quand elle s'éloigne, le silence retombe. On n'entend plus que l'eau de la douche. Il note encore l'absurdité de la situation. Lui qui mange sur le bord de la nationale, Joanne qui prend sa douche à quelques mètres. Ce soir, ils vont s'allonger côte à côte sur le matelas double dans le toit relevable du camping-car. Il espère qu'elle n'est pas claustrophobe. L'endroit est étroit. Peut-être refusera-t-elle de dormir à côté de lui. Peut-être préférera-t-elle s'allonger sur la banquette devant la table en bas. Ils se diront « bonne nuit », rien d'autre, car ils ne parlent presque pas. Ils pourraient être un vieux couple voyageant ensemble. Le bruit de la douche s'arrête. Émile engloutit les dernières bouchées de son sandwich et se renverse en arrière sur sa chaise pliante. Il ne va pas tarder à aller s'allonger sur le matelas. Il se sent épuisé. Il pèse des tonnes. Il entend des bruits sur le gravillon. Joanne s'approche, enroulée dans un peignoir. Elle a les cheveux mouillés qui dégoulinent sur son visage. Il la reconnaît à peine comme ça. Elle a l'air embêtée. Émile... Ça lui fait étrange de l'entendre prononcer son prénom. C'est la première fois. Il va devoir s'y habituer.
J'ai terminé le réservoir d'eau. Je suis désolé. Je pensais pas que ça allait si vite.
Il a un geste désinvolte de la main.
Ce n'est rien. Ouais, mais si tu voulais te laver...
On verra ça demain. Elle ne semble pas plus soulagée. Elle a toujours cet air embêté, la tête rentrée dans les épaules.
Est-ce que tu crois que je pourrais emprunter le placard mural pour ranger mes affaires ?
Il lui adresse un sourire rassurant.
Ouais, bien sûr. Tu peux ranger quelques trucs sous l'évier aussi.
Et tes affaires ?
Il y a d'autres rangements sous la banquette. Ce sera mon coin.
D'accord, merci.
Elle repart vers le camping-car. Émile s'étire, se lève.
« Je laisse la table et les chaises dehors ?»
demande-t-il fort pour qu'elle l'entende depuis l'intérieur. La tête de Joanne apparaît dans l'encadrement de la porte.
« Pourquoi ?»«
Je vais me coucher, j'ai quelques heures de sommeil à rattraper. »«
Ah, oui, laisse-les. Je les plierai avant d'aller dormir. »
Il récupère l'emballage du sandwich qu'il froisse dans sa main, son téléphone toujours éteint, et regagne l'intérieur du véhicule. Joanne est agenouillée devant son sac à dos. Elle en extrait des tas de vêtements avec des gestes lents. Elle se lève, ouvre la porte du placard mural, là où étaient stockées la table et les chaises pliantes. Il y a de quoi ranger pas mal d'affaires. Ils ne seront pas trop à l'étroit.
« C'est à toi ?»
demande-t-elle. Elle vient de découvrir un carton tout en bas du placard. Elle s'apprête à le prendre, mais Émile l'interrompt un peu trop brusquement.
« C'est à moi, laisse !»
Elle stoppe net son geste. Il ne sait pas s'il l'a froissé. Elle n'en montre rien. Elle recommence son rangement. Ce sont des photographies qu'il a empilées dans le carton. Des années et des années de photographies. Émile se radoucit.
« Je vais déplier le toit, c'est là-haut qu'on dormira. »
Il lui indique la petite échelle en corde dans le fond du véhicule qui permet d'accéder au toit et à la couchette.
D'accord.
Il n'a jamais relevé un toit de camping-car. Il se bagarre avec le mécanisme pendant 10 longues minutes. Quand Joanne passe la tête pour demander «
Tu t'en sors ?»
il vient de terminer.
« Tout est bon. »
Il regarde sa montre. Il est 19h.
« Bon, je vais me coucher. » « Si tu veux rester un peu dehors, il y a des bougies sous l'évier et un briquet. »«
D'accord, merci. »«
S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à me réveiller ou à fouiller. Fais comme chez toi. »«
D'accord, » répète-t-elle.
« Bonne nuit. »
Il disparaît au bout de l'échelle sous le toit. Le matelas est confortable mais peu large. Il ne faudra pas trop bouger. Il se déshabille comme il peut en position couchée. Il n'y a pas assez de hauteur pour se tenir assis ici. Il garde juste un t-shirt et son caleçon, dépose ses vêtements sales au niveau de ses pieds. Il se laisse tomber sur l'oreiller avec soulagement. Il ne mettra pas longtemps à s'endormir ce soir.